Honoré de Balzac. L'envers de l'histoire contemporaine. Deuxième épisode. L'initié. Chapitre 1. De même que le mal, le sublime a sa contagion. Aussi, lorsque le pensionnaire de Madame de la Chanterie eut habité cette vieille et silencieuse maison pendant quelques mois, après la dernière confidence du bonhomme Alain qui lui donna le plus profond respect pour les quasi-religieux avec lesquels il se trouvait, éprouva-t-il ce bien-être de l'âme que donne une vie réglée, des habitudes douces et l'harmonie des caractères chez ceux qui nous entourent. En 4 mois, Godefroy, qui n'entendit pas un éclat de voix ni une discussion, finit par s'avouer à lui-même que, depuis l'âge de raison, il ne se souvenait point d'avoir été si complètement, non pas heureux, mais tranquille. Il jugeait sainement du monde en le voyant de loin. Enfin, le désir qu'il nourrissait depuis 3 mois de participer aux œuvres de ces mystérieux personnages devint une passion. Et, sans être un grand philosophe, chacun peut soupçonner la force que prennent les passions dans la solitude. Un jour, donc, jour devenu solennel par la toute-puissance de l'esprit, après s'être sondé le cœur, avoir consulté ses forces, Godefroy monta chez le bon vieil Alain, celui que Madame de la Chanterie nommait son agneau, celui qui, de tous les commensaux du logis, lui semblait le moins imposant, le plus abordable, dans l'intention d'obtenir du bonhomme quelques lumières sur les conditions du sacerdoce que ces espèces de frères en Dieu exerçaient dans Paris. Les allusions déjà faites à un temps d'épreuve lui pronostiquait une initiation à laquelle il s'attendait. Sa curiosité n'avait pas été contentée par ce que lui avait dit le vénérable vieillard sur les motifs de son agrégation à l'œuvre de Madame de la Chanterie. Il voulait en savoir davantage. Pour la 3e fois, Godefroy se trouva devant le bonhomme Alain à 10h30 du soir, au moment où le vieillard allait faire sa lecture de l'Imitation. Cette fois, le doux initiateur ne put retenir un sourire, et voyant le jeune homme, il lui dit sans le laisser parler. « Pourquoi vous adressez-vous à moi, mon cher garçon, au lieu de vous adresser à madame? Je suis le plus ignorant, le moins spirituel, le plus imparfait de la maison. Voici 3 jours que madame et mes amis lisent dans votre cœur, » ajouta-t-il d'un petit air fin. « Et qu'ont-ils vu ?» demanda Godefroy. « Ah !» répondit le bonhomme sans aucun détour. « Ils ont deviné chez vous une envie assez naïve d'appartenir à notre petit troupeau. Mais ce sentiment n'est pas encore chez vous une bien ardente vocation. « Oui, » reprit-il vivement à un geste de Godefroy. « Vous avez plus de curiosité que de ferveur. Enfin, vous n'êtes pas tellement détaché de vos anciennes idées que vous n'ayez entrevu je ne sais quoi d'aventureux, de romanesque, comme on dit, dans les incidents de notre vie. » Godefroy ne put s'empêcher de rougir. « Vous voyez dans nos occupations une similitude avec celle des califes des 1001 nuits, et vous éprouvez par avance une sorte de satisfaction à jouer le rôle d'un bon génie dans les romans de bienfaisance que vous vous plaisez à inventer. Allons, mon fils, votre rire de confusion me prouve que nous ne nous sommes pas trompés. Comment croyez-vous pouvoir dérober un sentiment à des gens dont le métier est de deviner les mouvements les plus cachés des âmes, les ruses de la pauvreté, les calculs de l'indigence, et qui sont des espions honnêtes, chargés de la police du bon Dieu, de vieux juges dont le code ne contient que des absolutions, des docteurs en toute souffrance dont l'unique remède est l'argent sagement employé. Mais voyez-vous, mon enfant, Nous ne querellons pas les motifs qui nous amènent un néophyte, pourvu qu'il nous reste et qu'il devienne un frère de notre ordre. Nous vous jugerons à l'œuvre. Il y a deux curiosités, celle du bien et celle du mal. Vous avez en ce moment la bonne. Si vous devez être un ouvrier de notre vigne, le jus des grappes vous donnera la soif perpétuelle du fruit divin. L'initiation est, comme en toute science naturelle, facile en apparence et difficile en réalité. C'est en bienfaisance comme en poésie. Rien de plus facile que d'attraper l'apparence. Mais ici, comme au Parnasse, nous ne nous contentons que de la perfection. Pour devenir un des nôtres, vous devez acquérir une grande science de la vie. Et de quelle vie, bon Dieu ! La vie parisienne qui défie la sagacité de monsieur le préfet de police et de ses messieurs. N'avons-nous pas à déjouer la conspiration permanente du mal, à la saisir dans ses formes si changeantes qu'on les croirait infinies? La charité, dans Paris, doit être aussi savante que le vice, de même que l'argent de police doit être aussi rusé que le voleur. Chacun de nous doit être candide et défiant, avoir le jugement sûr et rapide, autant que le coup d'œil. Aussi, mon enfant, sommes-nous tous vieux et vieillis. Mais nous sommes si contents des résultats que nous avons obtenus que nous ne voulons pas mourir sans laisser de successeur. Et vous nous êtes d'autant plus chers à tous que vous serez, si vous persistez, notre premier élève. Il n'y a pas de hasard pour nous. Nous vous devons à Dieu. Vous êtes une bonne nature aigrie, et depuis que vous demeurez ici, les mauvais levains se sont affaiblis. La nature divine de madame a réagi sur vous. Hier, nous avons tenu conseil, et puisque j'ai votre confiance, mes bons frères ont décidé de me donner à vous comme tuteur et instituteur. Êtes-vous content ? Ah ! Mon bon monsieur Alain, vous avez éveillé par votre éloquence une... Ce n'est pas moi, mon enfant, qui parle bien. C'est les choses qui sont éloquentes. On est toujours sûr d'être grandiose en obéissant à Dieu, en imitant Jésus-Christ, autant que des hommes le peuvent, aidés par la foi. Eh bien, ce moment a décidé de ma vie, et je me sens la ferveur, s'écria Godefroy. Moi aussi, je veux passer ma vie à bien faire. C'est le secret de rester en Dieu, répliqua le bonhomme. Avez-vous étudié cette devise « Transire bene faciendo » ? Transire veut dire « aller au-delà de ce monde » en y laissant une longue traînée de bienfaits. J'ai bien compris, et j'ai mis de moi-même la devise de l'ordre devant mon lit. C'est bien. Cette action, si légère en elle-même, est beaucoup à mes yeux. Donc, mon enfant, j'ai votre première affaire, votre premier duel avec la misère, et je vais vous mettre le pied à l'étrier. Nous allons nous quitter. Oui, moi-même, je suis détaché du couvent pour prendre place au cœur d'un volcan. Je vais devenir contremaître dans une grande fabrique dont tous les ouvriers sont infectés des doctrines communistes et qui rêvent une destruction sociale, l'égorgement des maîtres, sans savoir que ce serait la mort de l'industrie, du commerce, des fabriques. Je resterai là, qui sait, peut-être un an, à tenir la caisse, les livres, et à pénétrer dans 100 ou 120 ménages de pauvres gens égarés, sans doute par la misère, avant de l'être par de mauvais livres. Néanmoins, nous nous verrons ici tous les dimanches et les jours de fête. Comme nous habiterons le même quartier, je vous indique l'église Saint-Jacques du Haut-Pas comme lieu de rendez-vous. J'y entendrai la messe tous les jours, à 7h30 du matin. Si vous me rencontrez ailleurs, vous ne me reconnaîtrez jamais, à moins que vous ne me voyiez me frotter les mains à la façon des gens satisfaits. C'est un de nos signes. Nous avons, comme les sourds-muets, un langage par geste, dont la nécessité vous sera bientôt et surabondamment démontrée. Godefroy fit un geste que le bonhomme Alain interpréta, car il sourit et reprit aussitôt la parole. « Maintenant, voici votre affaire. Nous n'exerçons ni la bienfaisance, ni la philanthropie que vous connaissez, et qui se divise en plusieurs branches exploitées par des filous de probité comme autant de commerce. Mais nous pratiquons la charité telle que l'a définie notre grand et sublime saint Paul. Car, mon enfant, nous pensons que la charité peut seule panser les plaies de Paris. Ainsi, pour nous, le malheur, la misère, la souffrance, le chagrin, le mal de quelque cause qu'il procède, dans quelque classe sociale qu'il se manifeste, ont les mêmes droits à nos yeux. Quelle que soit surtout sa croyance ou ses opinions, un malheureux est avant tout un malheureux, et nous ne devons lui faire tourner la face vers notre Sainte Mère l'Église qu'après l'avoir sauvé du désespoir ou de la faim. Et encore, devons-nous le convertir plus par l'exemple et par la douceur qu'autrement. Car nous croyons que Dieu nous aide en ceci. Toute contrainte est donc mauvaise. De toutes les misères parisiennes, les plus difficiles à découvrir et les plus âpres sont celles des gens honnêtes, celles des hautes classes de la bourgeoisie dont les familles viennent à tomber dans l'indigence, car elles mettent leur honneur à la cacher. Ces malheurs-là, mon cher Godefroy, sont l'objet d'une sollicitude particulière. En effet, les personnes secourues ont de l'intelligence et du cœur. Elles nous rendent avec usure les sommes que nous leur avons prêtées. Et, dans un temps donné, ces restitutions couvrent les pertes que nous faisons avec les infirmes, les fripons ou ceux que le malheur a rendus stupides. Nous obtenons bien quelquefois des renseignements par nos propres obligés, mais notre œuvre est devenue si vaste, les détails en sont si multipliés que nous n'y suffisions plus. Aussi, depuis 7 à 8 mois, avons-nous un médecin à nous dans chaque arrondissement de Paris. Chacun de nous est chargé de 4 arrondissements. Nous donnons à chaque médecin une indemnité de 3 000 francs par an pour s'occuper de nos pauvres. Il nous doit son temps et ses soins préférablement à tout. Mais nous ne l'empêchons pas de soigner d'autres malades. Savez-vous que nous n'avons pas pu trouver 12 hommes si précieux, 12 braves gens en 8 mois, malgré les ressources que nous offraient nos amis et nos propres connaissances? Ne nous fallait-il pas des personnes d'une discrétion absolue, de mœurs pures, de science éprouvée, actives, aimant à faire le bien? Or, quoi qu'il y ait dans Paris 10 000 individus plus ou moins aptes à nous servir, ces 12 élus ne se rencontrent pas en un an. Notre Sauveur a eu de la peine à rassembler ses apôtres, et encore, s'y était-il fourré un traître et un incrédule? Dit Godefroy. Enfin, depuis 15 jours, nos arrondissements sont tous pourvus d'un visiteur, reprit le bonhomme en souriant. C'est le nom que nous donnons à nos médecins. Aussi, depuis 15 semaines, avons-nous un surcroît de besogne, mais nous redoublons d'activité. Et si je vous confie ce secret de notre ordre naissant, c'est que vous devez connaître le médecin de l'arrondissement où vous allez, d'autant plus que les renseignements viennent de lui. Ce visiteur se nomme Berton, le docteur Berton. Il demeure rue d'Enfer. Et maintenant, voici le fait. Le docteur Berton soigne une dame dont la maladie défie en quelque sorte la science. Ceci ne nous regarde pas, mais bien la faculté. Notre affaire à nous est de découvrir la misère de la famille de cette malade, que le docteur soupçonne être effroyable, et surtout cachée avec une énergie, avec une fierté qui veulent tous nos soins. Autrefois, j'aurais suffi, mon enfant, à cette tâche. Aujourd'hui, l'œuvre à laquelle je me dévoue exige un aide pour mes 4 arrondissements, et vous serez cette aide. Notre famille demeure rue Notre-Dame-des-Champs, dans une maison qui donne sur le boulevard du Montparnasse. Vous y trouverez bien une chambre à louer, et vous tâcherez de savoir la vérité pendant le temps que vous habiterez ce logis. Soyez d'une avarice sordide pour vous. Mais quant à l'argent à donner, ne vous en inquiétez point, je vous remettrai les sommes que nous jugerons nécessaires, tout examen fait des circonstances entre nous. Mais étudiez bien le moral de ces malheureux. Le cœur, la noblesse des sentiments, voilà nos hypothèques. Avares pour nous, généreux avec les souffrants, nous devons être prudents et même calculateurs, car nous puisons dans le trésor des pauvres. Ainsi, demain matin, partez et songez à la toute-puissance dont vous disposez. Les frères sont avec vous. Ah ! S'écria Godefroy. Vous me donnez un tel plaisir de bien faire et d'être digne de vous appartenir un jour que, vraiment, je n'en dormirai pas. Ah, mon enfant, une dernière recommandation. La défense de me reconnaître, sans le signal, concerne également ces messieurs, madame, et même les gens de la maison. C'est une nécessité de l'incognito absolu qui nous est nécessaire dans nos entreprises. Et nous sommes si souvent obligés de le garder que nous en avons fait une loi. D'ailleurs, nous devons rester ignorés, perdus dans Paris. Songez aussi, cher Godefroy, à l'esprit de notre ordre, qui consiste à ne jamais paraître des bienfaiteurs, à garder un rôle obscur, celui d'intermédiaire. Nous nous présentons toujours comme les agents d'une personne pieuse, sainte. Ne travaillons-nous pas pour Dieu ? Afin qu'on ne se croie pas obligé à de la reconnaissance envers nous, ou qu'on ne nous prenne point pour des personnes riches. L'humilité vraie, sincère, et non la fausse humilité des gens qui s'effacent pour être mis en lumière, doit vous inspirer et régir toutes vos pensées. Vous pouvez être content d'avoir réussi, mais tant que vous sentirez en vous un mouvement de vanité et d'orgueil, vous ne serez pas digne d'entrer dans l'ordre. Nous avons connu deux hommes parfaits. L'un qui fut un de nos fondateurs, le juge Popineau. Quant à l'autre, qui s'est révélé par ses œuvres, c'est un médecin de campagne qui a laissé son nom écrit dans un canton. Celui-ci, mon cher Godefroy, est un des plus grands hommes de notre temps. Il a fait passer toute une contrée de l'état sauvage à l'état prospère, de l'état irréligieux à l'état catholique, de la barbarie à la civilisation. Le nom de ces deux hommes sont gravés dans nos cœurs, et nous nous les proposons comme modèles. Nous serions bien heureux si nous pouvions avoir un jour sur Paris l'influence que ce médecin de campagne a eue sur son canton. Mais ici, la plaie est immense au-dessus de nos forces, quant à présent. Que Dieu nous conserve longtemps, madame, qu'il nous envoie quelques aides comme vous, et peut-être laisserons-nous une institution qui fera bénir sa sainte religion. Allons, adieu, votre initiation commence. Ah, je suis bavard comme un professeur et j'oublie l'essentiel. Tenez, voici l'adresse de cette famille, dit-il en remettant à Godefroy un carré de papier. J'y ai ajouté le numéro de la maison où demeure M. Berton, rue d'Enfer. Maintenant, allez prier Dieu qu'il vous vienne en aide. Godefroy prit les mains du bon vieillard et les lui serra tendrement en lui souhaitant le bonsoir et lui protestant de ne manquer à aucune de ses recommandations. « Tout ce que vous m'avez dit, ajouta-t-il, est gravé dans ma mémoire pour toute ma vie. » Le vieillard sourit, sans exprimer aucun doute, et se leva pour aller s'agenouiller à son prie-Dieu. Godefroy rentra dans sa chambre, joyeux de participer enfin au mystère de cette maison, et d'avoir une occupation qui, dans la disposition d'âme où il se trouvait, devenait un plaisir. Le lendemain matin, au déjeuner, le bonhomme Alain manquait. Mais Godefroy ne fit aucune allusion à la cause de son absence. Il ne fut pas questionné non plus sur la mission que le vieillard lui avait confiée. Il reçut ainsi sa première leçon de discrétion. Néanmoins, après le déjeuner, il prit à part Madame de la Chanterie et lui dit qu'il allait être absent pour quelques jours. « Bien, mon enfant, lui répondit Madame de la Chanterie, tâchez de faire honneur à votre parrain, car Monsieur Alain a répondu de vous à ses frères. » Godefroy dit adieu aux trois autres frères qui lui firent un salut affectueux, par lequel il semblait bénir son début dans cette pénible carrière. L'association, une des plus grandes forces sociales et qui a fait l'Europe du Moyen-Âge, repose sur des sentiments qui, depuis 1792, n'existent plus en France, où l'individu a triomphé de l'État. L'association exige d'abord une nature de dévouement qui n'y est pas comprise, puis une foi candide, contraire à l'esprit de la nation. Enfin, une discipline contre laquelle tout regimbe et que la religion catholique peut seule obtenir. Dès qu'une association se forme dans notre pays, chaque membre, en rentrant chez soi d'une assemblée où les plus beaux sentiments ont éclaté, pense à faire litière de ce dévouement collectif, de cette réunion de force, et il s'ingénie à traire à son profit la vache commune, qui, ne pouvant suffire à tant d'adresse individuelle, meurt éthique. On ne sait pas combien de sentiments généreux ont été flétris, combien de germes ardents ont péri, combien de ressorts ont été brisés, perdus pour le pays, par les infâmes déceptions de la charbonnerie française, par les souscriptions patriotiques du champ d'asile et autres tromperies politiques qui devaient être de grands, de nobles drames et qui ne furent que des vaudevilles de police correctionnelle. Il en fut des associations industrielles comme des associations politiques. L'amour de soi s'est substitué à l'amour du corps collectif. Les corporations et les hanses du Moyen-Âge, auxquelles on reviendra, sont impossibles encore. Aussi, les seules sociétés qui subsistent sont-elles des institutions religieuses auxquelles on fait la plus rude guerre en ce moment, car la tendance naturelle des malades est de s'attaquer aux remèdes et souvent aux médecins. La France ignore l'abnégation. Aussi, toute association ne peut-elle vivre que par le sentiment religieux, le seul qui dompte les rébellions de l'esprit, les calculs de l'ambition et les avidités de tout genre. Les chercheurs de monde ignorent que l'association a des mondes à donner. En marchant dans les rues, Godefroy se sentait un tout autre homme. Qui l'eût pu pénétrer aurait admiré le phénomène curieux de la communication du pouvoir collectif. Ce n'était plus un homme, mais bien un être décuplé, se sachant le représentant de 5 personnes dont les forces réunies appuyaient ses actions, et qui marchaient avec lui. Portant ce pouvoir dans son cœur, il éprouvait une plénitude de vie, une puissance noble qui l'exaltait. Ce fut, comme il le dit plus tard, l'un des plus beaux moments de son existence, car il jouissait d'un sens nouveau, celui d'une omnipotence plus certaine que celle des despotes. Le pouvoir moral est comme la pensée, sans limite. Vivre pour autrui, se dit-il, agir en commun comme un seul homme et agir à soi seul comme tous ensemble. Avoir pour chef la charité, la plus belle, la plus vivante des figures idéales que nous avons faites des vertus catholiques. Voilà vivre. Allons, réprimons cette joie puérile et dont rirait le père Alain. N'est-ce pas singulier, cependant, se dit-il, que ce soit en voulant m'annuler que j'ai trouvé ce pouvoir tant désiré depuis si longtemps. Le monde des malheureux va m'appartenir. Il fit le trajet du cloître Notre-Dame à l'avenue de l'Observatoire dans une telle exaltation qu'il ne s'aperçut point de la longueur du chemin. Arrivé rue Notre-Dame-des-Champs, dont la partie aboutissant à la rue de l'Ouest, qui ni l'une ni l'autre n'était encore pavée à cette époque, il fut surpris de trouver de tels bourbiers dans un endroit si magnifique. On ne marchait alors que le long des enceintes en planches qui bordaient des jardins marécageux, ou le long des maisons, par d'étroits sentiers bientôt gagnés par des eaux stagnantes qui les convertissaient en ruisseaux. À force de chercher, il finit par trouver la maison indiquée, et il y arriva non sans peine. C'était évidemment une ancienne fabrique abandonnée. Le bâtiment, assez étroit, se présentait comme une longue muraille percée de fenêtres sans aucun ornement. Mais ces ouvertures carrées n'existaient pas au rez-de-chaussée, où l'on ne voyait qu'une misérable porte bâtarde. Godefroy supposa que le propriétaire avait ménagé de petits logements dans ce local pour en tirer parti, car il y avait au-dessus de la porte une affiche faite à la main et ainsi conçue. Plusieurs chambres à louer. Godefroy sonna, mais personne ne vint. Et comme il attendait, une personne qui passait lui fit observer que la maison avait une autre entrée sur le boulevard, où il trouverait à qui parler. Godefroy suivit ce conseil et vit, au fond d'un jardinet qui longeait le boulevard, la façade de cette construction, quoique cachée par les arbres. Le jardinet, assez mal tenu, se trouvait en pente, car il existe entre le boulevard et la rue Notre-Dame-des-Champs une assez forte différence de hauteur qui faisait de ce petit jardin une espèce de fossé. Godefroy descendit alors dans une allée au bout de laquelle il vit une vieille femme dont les vêtements délabrés étaient en parfaite harmonie avec la maison. « N'est-ce pas vous qui avez sonné rue Notre-Dame ? » demanda-t-elle. « Oui, madame. Êtes-vous chargée de faire voir les logements ?» Sur la réponse de cette portière d'un âge douteux, Godefroy s'enquit si la maison était habitée par des gens tranquilles. Il se livrait à des occupations qui exigeaient le silence et le repos. Il était garçon et voulait s'arranger avec la concierge pour qu'elle fît son ménage. À cette insinuation, la portière prit un air gracieux et dit « Monsieur est bien tombé en venant ici, car, excepté les jours de chaumière, le boulevard est désert comme les marais pontins. » « Vous connaissez les marais pontins ? » dit Godefroy. « Non, monsieur, mais j'ai là-haut un vieux monsieur dont la fille a pour état d'être à l'agonie et qui dit cela, je le répète. Ce pauvre vieillard sera bien content de savoir que monsieur aime et veuille du repos, car un locataire qui serait un général tempête lui avancerait sa fille. Nous avons au second deux espèces d'écrivains, mais ils rentrent le jour à minuit, et la nuit ils s'en vont à 8 heures du matin. Ils se disent auteurs, mais je ne sais pas où ni quand ils travaillent. » En parlant ainsi, la portière avait conduit Godefroy par un de ces affreux escaliers de briques et de bois, si mal mariés qu'on ne sait si c'est le bois qui veut quitter la brique ou les briques qui s'ennuient d'être prises dans le bois. Et alors, ces deux matériaux se fortifient l'un contre l'autre par des provisions de poussière en été, de boue en hiver. Les murs en plâtre fendillés offraient au regard plus d'inscriptions que l'Académie des belles-lettres n'en a inventées. La portière s'arrêta sur le premier palier. « Voici, monsieur, deux chambres contiguës et très propres qui donnent sur le carré de monsieur Bernard. C'est le vieux monsieur en question, un homme bien comme il faut. C'est un monsieur décoré, mais qui a eu des malheurs à ce qu'il paraît, car il ne porte jamais son décor. Ils ont d'abord été servis par un domestique qui était de la province, et ils l'ont renvoyé il y a de ça 3 ans. Le jeune fils de la dame suffit pour lors à tout. Il fait le ménage. » Godefroy fit un geste. « Oh ! » s'écria la portière. « Soyez tranquille, ils ne vous diront rien, ils ne parlent à personne. Ce monsieur est là depuis la Révolution de Juillet. Il est venu en 1831. C'est des gens de province qui auront été ruinés par le changement de gouvernement. Ils sont fiers, ils sont taciturnes comme des poissons. Depuis 4 ans, monsieur, ils n'ont pas accepté de moi le plus petit service, de peur d'avoir à le payer. 100 sous au jour de l'an, voilà tout ce que je gagne avec eux. Parlez-moi des auteurs. J'ai 10 francs par mois rien que pour dire qu'ils sont déménagés du dernier terme à tous ceux qui viennent les demander. Ce bavardage fit espérer à Godefroy un allié dans cette portière, qui lui dit, tout en lui vantant la salubrité des 2 chambres et des 2 cabinets, qu'elle n'était pas portière, mais bien la femme de confiance du propriétaire, pour qui elle gérait en quelque sorte la maison. « On peut avoir confiance en moi, monsieur, allez, car madame Vautier aimerait mieux ne rien avoir que d'avoir 1 sou à autrui. » Madame Vautier fut bientôt d'accord avec Godefroy, qui ne voulut louer ce logement qu'au mois et meublé. Ces misérables chambres d'étudiants ou d'auteurs malheureux se louaient meublées ou non meublées. Les vastes greniers qui s'étendaient sur tout le bâtiment contenaient les meubles. Mais M. Bernard avait meublé lui-même le logement qu'il occupait. En faisant causer la dame Vautier, Godefroy devina que son ambition était de tenir une pension bourgeoise. Mais depuis 5 ans, elle n'avait pu rencontrer dans ses locataires un seul commensal. Elle demeurait au rez-de-chaussée sur le boulevard et gardait ainsi elle-même la maison, à l'aide d'un gros chien, d'une grosse servante et d'un petit domestique qui faisait les boîtes, les chambres et les commissions. De pauvres gens comme elle, en harmonie avec la misère de la maison, avec celle des locataires, avec l'air sauvage et désolé du jardin qui précédait la maison. Tous deux étaient des enfants abandonnés de leur famille, et à qui la veuve Vautier donnait la nourriture pour tout gage. Mais quelle nourriture! Le garçon que Godefroy entrevit portait une blouse déguenillée pour livrée, des chaussons au lieu de souliers, et dehors il allait en sabots. Ébouriffé comme un moineau qui sort de prendre un bain, les mains noires, il allait travailler à mesurer du bois dans un des chantiers du boulevard, après avoir fait le service du matin. Et, après sa journée, qui chez les marchands de bois est finie à 4h30, il reprenait ses occupations domestiques. Il allait chercher à la fontaine de l'observatoire l'eau nécessaire à la maison et que la veuve fournirait aux locataires, ainsi que de petites falourdes sciées et fabriquées par lui. Nepomucène, ainsi s'appelait cet esclave de la veuve Vautier, apportait sa journée à sa maîtresse. En été, ce pauvre abandonné devenait garçon chez les marchands de vin de la barrière, les lundis et les dimanches. La veuve l'habillait alors convenablement. Quant à la grosse fille, elle faisait la cuisine sous la direction de la veuve Vautier, qu'elle aidait dans son industrie le reste du temps, car cette veuve avait un état. Elle faisait des chaussons de lisière pour les vendeurs ambulants. Godefroy apprit tous ces détails en 1 heure de temps, car la veuve le promena partout, lui montra la maison, en lui expliquant la transformation. Jusqu'en 1828, une magnanerie avait été établie là, moins pour faire de la soie que pour obtenir ce qu'on nomme de la graine. 11 arpents plantés en mûrier dans la plaine Montrouge et 3 arpents rue de l'Ouest, convertis plus tard en maison, avaient alimenté cette fabrique d'œufs de verre à soie. Au moment où la veuve expliquait à Godefroy que M. Barbet, qui prêtait de l'argent à un Italien nommé Fresconi, l'entrepreneur de cette fabrique, n'avait recouvré ses fonds hypothéqués sur les constructions et les terrains que par la vente de ses 3 arpents, qu'elle lui montrait de l'autre côté de la rue Notre-Dame-des-Champs, un grand vieillard sec, dont les cheveux étaient entièrement blancs, se montra dans le bout de la rue qui aboutit au carrefour de la rue de l'Ouest. « Ah bien, il arrive à propos !» s'écria la Vautier. « Tenez, voilà votre voisin, Monsieur Bernard !»« Monsieur Bernard, lui dit-elle dès que le vieillard fut à portée de l'entendre, « vous ne serez plus seul. Voici monsieur qui vient de louer le logement en face du vôtre. » Monsieur Bernard leva les yeux sur Godefroy dans une appréhension qu'il était facile de pénétrer. Il avait l'air de se dire « Le malheur que je craignais est donc enfin arrivé. »« Monsieur, » dit-il à haute voix, « vous comptez demeurer ici ?»«
Oui, monsieur, »
répondit honnêtement Godefroy.
« Ce n'est pas l'asile des gens qui font partie des heureux du monde, et c'est ce que j'ai trouvé de moins cher dans le quartier. Madame Vautier n'a pas la prétention de loger des millionnaires. Adieu, ma bonne Madame Vautier. Disposez tout de manière à ce que je puisse m'installer ce soir à 6 heures. Je reviendrai très exactement à 7 heures-là. »
Et Godefroy se dirigea vers le carrefour de la rue de l'Ouest, en allant avec lenteur, car l'anxiété peinte sur la physionomie du grand vieillard sec lui fit croire qu'ils allaient avoir ensemble une explication. En effet, après quelque hésitation, M. Bernard retourna sur ses pas et marcha de manière à rejoindre Godefroy.
« Le vieux mouchard, il va l'empêcher de revenir !» se dit la dame Vautier. « Voilà 2 fois qu'il me joue ce tour-là. »
Mais patience, dans 5 jours il doit payer son loyer, et s'il ne le solde pas recta, je le flanque à la porte. Monsieur Barbet est une espèce de tigre qu'on n'a pas besoin d'exciter, et... Mais je voudrais bien savoir ce qu'il leur dit. Félicité ! Félicité ! Grosse gaupe, arriveras-tu ?
Cria la veuve de sa voix réelle et formidable, car elle avait pris sa petite voix flûtée pour parler avec Godefroy.
La servante, grosse fille, rousse et louche, accourut. « Veille bien à tout ici pour quelques instants, m'entends-tu? Je reviens dans 5 minutes. » Et la dame Vautier, ancienne cuisinière du libraire Barbet, un des plus durs prêteurs à la petite semaine, se glissa sur les pas de ses 2 locataires, de manière à les épier de loin et à pouvoir retrouver Godefroy lorsque la conversation entre M. Bernard et lui serait finie. Monsieur Bernard allait lentement, comme un homme indécis ou comme un débiteur qui cherche des raisons à donner à un créancier qui vient de le quitter dans de mauvaises dispositions. Godefroy, quoiqu'en avant de cet inconnu, le regardait en feignant d'examiner le quartier. Aussi, ne fût-ce qu'au milieu de la grande allée du jardin du Luxembourg que monsieur Bernard aborda Godefroy.
Pardon, monsieur, dit M. Bernard en saluant Godefroy, qui lui rendit son salut. « 1000 pardons de vous arrêter sans avoir l'honneur d'être connu de vous. Mais votre dessein de loger dans l'affreuse maison où je me trouve est-il bien arrêté ?»«
Mais, monsieur... »
« Oui, reprit le vieillard en interrompant Godefroy par un geste d'autorité. « Je sais que vous pouvez me demander à quel titre je me mêle de vos affaires. » De quel droit je vous interroge? Écoutez, monsieur, vous êtes jeune, et je suis bien vieux. J'ai plus que mon âge, et je suis âgé déjà de 67 ans. On m'en donnerait 80. L'âge et les malheurs autorisent bien des choses, puisque la loi exempte les septuagénaires de certains services publics. Mais je ne vous parle pas des droits qu'ont les têtes blanchies. Il s'agit de vous. Savez-vous que le quartier où vous voulez demeurer est désert à 8 heures du soir, et que l'on y court des dangers, dont le moindre est d'être volé? Avez-vous fait attention à ces espaces sans habitation, à ces cultures, à ces jardins? Vous pouvez me dire que j'y demeure, mais moi, monsieur, je ne sors plus de chez moi passé 6 heures du soir. Vous me ferez observer qu'il y a 2 jeunes gens logés au second étage, au-dessus de l'appartement que vous allez prendre. Mais, monsieur, ces 2 pauvres gens de lettres sont sous le coup de lettres de change, poursuivis par des créanciers. Ils se cachent, et, partis au jour, ils reviennent à minuit, ne craignant ni les voleurs ni les assassins. D'ailleurs, ils vont toujours ensemble et sont armés. C'est moi qui leur ai obtenu de la préfecture de police l'autorisation de porter des armes.
« Hé, monsieur, » dit Godefroy, « je ne crains pas les voleurs, pour des raisons semblables à celles qui rendent ces messieurs invulnérables. Et j'ai pour la vie un si grand mépris que si l'on m'assassinait par erreur, je bénirais le meurtrier. »
Vous n'avez cependant pas l'air d'être très malheureux, répliqua le vieillard qui avait examiné Godefroy.
J'ai tout au plus de quoi vivre, de quoi manger du pain. Et je suis venu là, monsieur, à cause du silence qui y règne.
Mais puis-je vous demander quel intérêt vous avez à m'éloigner de cette maison ?
Le grand vieillard hésitait à répondre. Il voyait venir Madame Vautier. Mais Godefroy, qui l'examinait attentivement, fut surpris du degré de maigreur auquel le chagrin, la faim peut-être le travail, l'avait fait arriver. Il y avait trace de toutes ces causes d'affaiblissement sur cette figure, où la peau desséchée se collait avec ardeur sur les os, comme si elle avait été exposée au feu de l'Afrique. Le front haut et d'un aspect menaçant abritait sous sa coupole deux yeux d'un bleu d'acier, deux yeux froids, durs, sagaces et perspicaces comme ceux des sauvages, mais meurtris par un profond cercle noir très ridé. Le nez grand, long et mince, et le menton très relevé, donnaient à ce vieillard une ressemblance avec le masque si connu, si populaire, attribué à Don Quichotte. Mais c'était Don Quichotte méchant, sans illusion, un Don Quichotte terrible. Ce vieillard, malgré cette sévérité générale, laissait percer la crainte et la faiblesse que prête l'indigence à tous les malheureux. Ces deux sentiments produisaient comme des lézardes dans cette face construite si solidement que le pic dévastateur de la misère semblait s'y ébrécher. La bouche était éloquente et sérieuse. Don Quichotte se compliquait du président de Montesquieu. Tout le vêtement était de drap noir, mais de drap qui montrait la corde. L'habit, de coupe ancienne, le pantalon, montraient quelques reprises maladroitement travaillées. Les boutons venaient d'être renouvelés. L'habit boutonné jusqu'au menton ne laissait pas voir la couleur du linge, et la cravate d'un noir rougi cachait l'industrie d'un faux col. Ce noir, porté depuis de longues années, puait la misère. Mais le grand air de ce vieillard mystérieux, sa démarche, la pensée qui habitait son front et se manifestait dans ses yeux, excluait l'idée de pauvreté. L'observateur eût hésité à classer ce Parisien. M. Bernard paraissait tellement absorbé qu'il pouvait être pris pour un professeur du quartier, pour un savant plongé dans des méditations jalouses et tyranniques. Aussi Godefroy fut-il pris d'un violent intérêt et d'une curiosité que sa mission de bienfaisance aiguillonnait encore. « Monsieur, si j'étais sûr que vous cherchiez le silence et la retraite, je vous dirais « Logez-vous près de moi, » reprit le vieillard en continuant. « Louez cet appartement, » dit-il en élevant la voix de manière à se faire entendre de la Vautier qui passait et qui l'écoutait en effet. « Je suis père, monsieur, et je n'ai plus au monde que ma fille et son fils pour m'aider à supporter les misères de la vie. Or, ma fille a besoin de silence et d'une absolue tranquillité. Tous ceux qui sont venus jusqu'à présent pour se loger dans l'appartement que vous voulez prendre se sont rendus aux raisons et à la prière d'un père au désespoir. Il leur était indifférent de se loger dans telle ou telle rue d'un quartier vraiment désert, et où les logements à bon marché ne manquent pas plus que les pensions à des prix modérés. Mais je vois en vous une volonté bien arrêtée, et je vous en supplie, monsieur, ne me trompez pas, car autrement je serais forcé de partir et d'aller hors barrière. D'abord, un déménagement peut me coûter la vie de ma fille, dit-il d'une voix altérée. Puis, « Oh, qui sait si les médecins qui déjà viennent voir ma fille, pour l'amour de Dieu, voudront passer des barrières ?» Si cet homme avait pu pleurer, il aurait eu les joues couvertes de larmes en disant ces dernières paroles. Mais, selon une expression devenue aujourd'hui vulgaire, il eut des larmes dans la voix, et se couvrit le front de sa main qui ne laissait voir que des os et des muscles. « Quelle maladie a donc, madame, votre fille ?
demanda Godefroy d'un air insinuant et sympathique.
Une maladie terrible, à laquelle les médecins donnent tous les noms, ou pour mieux dire, qui n'a pas de nom. Ma fortune a passé.
Il se reprit pour dire avec un de ces gestes qui n'appartiennent qu'aux malheureux.
Le peu d'argent que j'avais, car je me suis trouvé sans fortune en 1830, renversé d'une haute position, enfin, tout ce que je possédais a été dévoré promptement par ma fille, qui déjà, monsieur, avait ruiné sa mère et la famille de son mari. Aujourd'hui, la pension que je touche suffit à peine à payer les nécessités de l'état où se trouve ma pauvre sainte fille. Elle a usé chez moi la faculté de pleurer. J'ai subi 1000 tortures. Monsieur, je suis de granit pour n'être pas mort. Ou plutôt, Dieu conserve le père à l'enfant pour qu'elle ait une garde, une providence, car sa mère est morte à la peine. Ah, vous êtes venu, jeune homme, dans le moment où le vieil arbre qui n'a jamais plié sent la hache de la misère, aiguisée par la douleur, entamer le cœur. Et moi, qui n'ai jamais proféré de plainte, je vais vous parler de cette maladie, afin de vous empêcher de venir dans cette maison. Ou, si vous persistez, pour vous montrer la nécessité de ne pas troubler notre repos. En ce moment, monsieur, ma fille aboie comme un chien, jour et nuit. Elle est folle, dit Godefroy.
Elle a toute sa raison, et c'est une sainte, répondit le vieillard. Vous allez tout à l'heure croire que je suis fou quand je vous aurai tout dit. Monsieur, ma fille unique est née d'une mère qui jouissait d'une excellente santé. Je n'ai dans ma vie aimé qu'une seule femme, c'était la mienne, je l'ai choisie. J'ai fait un mariage d'inclination en épousant la fille d'un des plus braves colonels de la garde impériale, un Polonais, ancien officier d'ordonnance de l'empereur, le brave général Tarlowski. Les fonctions que j'exerçais exigent une grande pureté de mœurs, mais je n'ai pas le cœur fait à loger beaucoup de sentiments, et j'ai fidèlement aimé ma femme, qui méritait un pareil amour. Je suis père comme j'ai été mari, c'est tout vous dire en un mot. Ma fille n'a jamais quitté sa mère, et jamais enfant n'a vécu plus chastement, plus chrétiennement que cette chère fille. Elle est née plus que jolie, belle. Et son mari, jeune homme des mœurs duquel j'étais sûre, car il était le fils d'un de mes amis, un président de cour royale, n'a pu, certes, contribuer en rien à la maladie de ma fille. Godefroy et M. Bernard firent une pause involontaire en se regardant tous deux. Le mariage, vous le savez, change quelquefois beaucoup les jeunes personnes, reprit le vieillard. La première grossesse s'est bien passée et a produit un fils, mon petit-fils, qui demeure avec moi maintenant, seul rejeton des deux familles qui se sont alliées. La seconde grossesse fut accompagnée de symptômes si extraordinaires que les médecins, étonnés tous, les ont attribués à la bizarrerie des phénomènes qui se manifestent quelquefois dans cet état et qu'ils consignent au faste de la science. Ma fille accoucha d'un enfant mort et, à la lettre, tordue, étouffée par des mouvements intérieurs. La maladie commençait. La grossesse n'y était pour rien. Peut-être êtes-vous étudiant en médecine ? Godefroy fit un geste qui pouvait s'interpréter par une affirmation, tout aussi bien que par une négation.
Après cet accouchement terrible, laborieux, reprit M. Bernard, un accouchement, monsieur, qui fit une impression si violente sur mon gendre qu'il a commencé la mélancolie dont il est mort. Ma fille, 2 ou 3 mois après, se plaignit d'une faiblesse générale qui affectait particulièrement les pieds, lesquels, selon son expression, lui paraissaient être comme du coton. Cette atonie s'est changée en paralysie. Mais quelle paralysie, monsieur ? On peut plier les pieds à ma fille sous elle, les tordre sans qu'elle le sente. Le membre existe,
et n'a en apparence ni sang, ni muscles, ni os. Cette affection, qui ne se rapporte à rien de connu, a gagné les bras, les mains, et nous avons cru à quelque maladie de l'épine dorsale. Médecine et remède n'ont fait qu'empirer cet état, et ma pauvre fille ne pouvait plus bouger sans se démettre, soit les reins, soit les épaules ou les bras. Nous avons eu pendant longtemps chez nous un excellent chirurgien, presque à demeure, occupé, de concert avec le médecin ou les médecins, car il nous en est venu par curiosité, à remettre les membres à leur place. Le croiriez-vous, monsieur? 3 ou 4 fois par jour. Ah, cette maladie a tant de formes que j'oubliais de vous dire que, durant la période de faiblesse, avant la paralysie des membres, il s'est manifesté chez ma fille les cas de catalepsie les plus bizarres. Vous savez ce qu'est la catalepsie. Ainsi, elle restait les yeux ouverts, immobile, quelques jours, dans la position où cet état la prenait. Elle a subi les faits les plus monstrueux de cette affection. Elle a eu jusqu'à des attaques de tétanos. Cette phase de la maladie m'a suggéré l'idée d'employer le magnétisme à sa guérison, lorsque je la vis paralysée si singulièrement. Ma fille, monsieur, fut d'une clairvoyance miraculeuse. Son âme a été le théâtre de tous les prodiges du somnambulisme, comme son corps est le théâtre de toutes les maladies. Godefroy se demanda en lui-même si le vieillard avait toute sa raison. « Vraiment, moi, qui nourris de Voltaire, de Diderot et d'Helvétius, suis un enfant du 18e siècle, dit-il, en continuant sans faire attention à l'expression des yeux de Godefroy. Qui suis un fils de la Révolution, je me moquais de tout ce que l'Antiquité et le Moyen-Âge racontent des possédés. Eh bien, monsieur, la possession peut seule expliquer l'état dans lequel est mon enfant. Somnambule, elle n'a jamais pu nous dire la cause de ses souffrances. Elle ne les voyait point. Et toutes les méthodes de traitement qu'elle nous a dictées, quoique scrupuleusement suivies, ne lui firent aucun bien. Par exemple, elle voulut être enveloppée dans un porc fraîchement égorgé. Puis elle ordonna de lui plonger dans les jambes des pointes de fer aimantées fortement et rougies au feu, de faire fondre le long de son dos de la cire à cacheter. Mais quel désastre, monsieur! Les dents sont tombées, elle devient sourde, puis muette. Et puis, après 6 mois de mutisme absolu, de surdité complète, tout à coup, l'ouïe et la parole lui reviennent. Elle a recouvré, capricieusement, comme elle le perd, l'usage de ses mains. Mais les pieds sont, depuis 7 ans, demeurés perclus. Elle a subi des symptômes et des attaques d'hydrophobie bien prononcées, bien caractérisées. Non seulement la vue de l'eau, le bruit de l'eau, l'aspect d'un verre, d'une tasse, la mettait en fureur, mais encore elle a contracté l'aboiement des chiens, un aboiement mélancolique, les hurlements qu'ils font entendre lorsqu'on joue de l'orgue. Elle a été plusieurs fois à l'agonie et administrée, et elle revenait à la vie pour souffrir avec toute sa raison, avec toute sa clarté d'esprit. Car les facultés de l'âme et du cœur sont encore inattaquées. Si elle a vécu, monsieur, elle a causé la mort de son mari, de sa mère, qui n'ont pas pu supporter de pareilles crises. Hélas, monsieur, ce que je vous dis là n'est rien. Toutes les fonctions naturelles sont perverties. Et la médecine peut seule vous expliquer les étranges aberrations des organes. Et c'est dans cet état que j'ai dû l'amener de province à Paris en 1829, car les 2 ou 3 médecins célèbres de Paris à qui je me suis adressé, Desplein, Bianchon et Audry, tous ont cru qu'on voulait les mystifier. Le magnétisme était alors très énergiquement nié par les académies. Et sans mettre la bonne foi des médecins de la province et la mienne en doute, il supposait une inobservation, ou si vous voulez, une exagération assez commune dans les familles ou chez les malades. Mais ils ont été forcés de changer d'avis, Et c'est à ces phénomènes que sont dues les recherches faites dans ces derniers temps sur les maladies nerveuses, car ils ont classé cet état bizarre dans les névroses. La dernière consultation que ces messieurs ont faite a eu pour résultat de supprimer la médecine. Ils ont décidé qu'il fallait suivre la nature, l'étudier. Et depuis, je n'ai plus eu qu'un médecin. Le dernier est le médecin des pauvres de ce quartier. Il suffit, en effet, de faciliter les douleurs, de les pallier, puisqu'on n'en connaît pas les causes. Ici, le vieillard s'arrêta comme oppressé de cette épouvantable confidence. « Depuis 5 ans, reprit-il, ma fille vit dans des alternatives de mieux et de rechutes continuelles. Mais aucun phénomène nouveau ne s'est produit. Elle souffre plus ou moins par le fait de ces attaques nerveuses si variées que je vous ai brièvement indiquées. Mais les jambes et la perturbation des fonctions naturelles sont constantes. La gêne où nous sommes, et qui n'a fait que s'accroître, nous a forcés de quitter l'appartement que j'avais pris en 1829 dans le quartier du Faubourg du Roule. Et comme ma fille ne peut supporter le changement, que 2 fois déjà j'ai failli la perdre en l'emmenant à Paris et en la transportant du quartier Beaujon ici, j'ai sur-le-champ pris le logement où je suis, en prévision des malheurs qui n'ont pas tardé longtemps à fondre sur moi. Car, après 30 ans de service, l'on m'a fait attendre le règlement de ma pension jusqu'en 1833. Ce n'est que depuis 6 mois que je la touche. Et le nouveau gouvernement a joint à tant de rigueur celle de ne m'accorder que le minimum. Godefroy fit un geste d'étonnement qui demandait une confidence totale, et le vieillard le comprit ainsi, car il répondit sur-le-champ, non sans laisser échapper un regard accusateur vers le ciel. Je suis une des 1000 victimes des réactions politiques. Je cache un non-objet de bien des vengeances, et si les leçons de l'expérience ne doivent pas toujours être perdues d'une génération à l'autre, souvenez-vous, jeune homme, de ne jamais vous prêter aux rigueurs d'aucune politique. Non que je me repente d'avoir fait mon devoir, ma conscience est parfaitement en repos. Mais les pouvoirs aujourd'hui n'ont plus cette solidarité qui lie les gouvernements entre eux, quoique différents. Et si l'on récompense le zèle, c'est l'effet d'une peur passagère. L'instrument dont on s'est servi, quelque fidèle qu'il soit, est tôt ou tard entièrement oublié. Vous voyez en moi l'un des plus fermes soutiens du gouvernement des Bourbons de la branche aînée, comme je le fus du pouvoir impérial, et je suis dans la misère. Trop fier pour tendre la main, jamais on ne songera que je souffre des maux inouïs. Il y a 5 jours, monsieur, le médecin du quartier qui soigne ma fille, ou, si vous voulez, qui l'observe, m'a dit qu'il était hors d'état de guérir une maladie dont les formes variaient tous les 15 jours. Selon lui, les névroses sont le désespoir de la médecine, car les causes s'en trouvent dans un système inexplorable. Il m'a dit d'avoir recours à un médecin juif qui passe pour un empirique, mais il m'a fait observer que c'était un étranger, un Polonais réfugié, que les médecins sont très jaloux de quelques cures extraordinaires dont on parle beaucoup, et que certaines personnes le croient très savant, très habile. Seulement, il est exigeant, défiant, il choisit ses malades, il ne perd pas son temps. Enfin, il est communiste, il se nomme Alperson. Mon petit-fils est allé déjà voir ce médecin 2 fois inutilement, car nous n'avons pas encore eu sa visite. Je comprends pourquoi.
Pourquoi ? Dit Godefroy.
Oh, mon petit-fils, qui a 16 ans, est encore plus mal vêtu que je le suis. Et le croiriez-vous, monsieur, je n'ose pas me présenter chez ce médecin. Ma mise est trop peu d'accord avec ce qu'on attend d'un homme de mon âge, sérieux comme je le suis. S'il voit le grand-père dénué comme le voilà, lorsque le petit-fils s'est montré tout aussi mal, le médecin donnera-t-il à ma fille les soins nécessaires? Il agira comme on agit avec les pauvres. Et pensez, mon cher monsieur, que j'aime ma fille pour toutes les douleurs qu'elle m'a faites, de même que je l'aimais jadis pour toutes les félicités qu'elle me prodiguait. Elle est devenue angélique. Hélas, ce n'est plus qu'une âme, une âme qui rayonne sur son fils et sur moi. Le corps n'existe plus, car elle a vaincu la douleur. Jugez quel spectacle pour un père. Le monde pour ma fille, c'est sa chambre. Il y faut des fleurs qu'elle aime. Elle lit beaucoup, et quand elle a l'usage de ses mains, elle travaille comme une fée. Elle ignore la profonde misère dans laquelle nous sommes plongés. Aussi notre existence est-elle si bizarre que nous ne pouvons admettre personne chez nous. Me comprenez-vous bien, monsieur? Devinez-vous qu'un voisin est impossible? Je lui demanderais tant de choses que je lui aurais trop d'obligations, et il me serait impossible de m'acquitter. D'abord, le temps me manque pour tout. Je fais l'éducation de mon petit-fils, et je travaille tant, tant, monsieur, que je ne dors pas plus de 3 ou 4 heures par nuit. Monsieur, dit Godefroy en interrompant le vieillard qui l'avait écouté patiemment, en l'observant avec une douloureuse attention. « Je serai votre voisin, et je vous aiderai. » Le vieillard laissa échapper un geste de fierté, d'impatience même, car il ne croyait à rien de bon des hommes. « Je vous aiderai, » reprit Godefroy en prenant les mains au vieillard et les lui serrant avec une pieuse affection. « Mais, comme je puis vous aider, écoutez-moi, que comptez-vous faire de votre petit-fils ? Il va bientôt entrer à l'école de droit, car il prendra la carrière du palais. Votre petit-fils vous coûtera 600 francs par an, alors. » Le vieillard garda le silence. « Moi, dit Godefroy en continuant après une pause, je n'ai rien, mais je puis beaucoup. Je vous aurai le médecin juif. Et si votre fille est guérissable, elle sera guérie. Nous trouverons le moyen de récompenser cette âle personne. Oh, si ma fille était guérie, je ferais un sacrifice que je ne puis faire qu'une fois, s'écria le vieillard. Je vendrai la poire conservée pour la soif. Vous garderez la poire. Oh, la jeunesse, s'écria le vieillard en branlant la tête. Adieu, monsieur, ou plutôt au revoir. Voici l'heure de la bibliothèque, et comme j'ai vendu tous mes livres, je suis forcé d'y aller tous les jours pour mes travaux. Je vous tiens compte de ce bon mouvement que vous venez d'avoir. Mais nous verrons si vous m'accordez les ménagements que je dois demander à mon voisin. Voilà tout ce que j'attends de vous. Oui, laissez-moi, monsieur, être votre voisin, car, voyez-vous, Barbet n'est pas homme à subir des non-valeurs pendant longtemps, et vous pourriez rencontrer un plus mauvais compagnon de misère que moi. Maintenant, je ne vous demande pas de croire en moi, mais de me permettre de vous être utile. Et dans quel intérêt ? S'écria le vieillard qui se disposait à descendre les marches du cloître des Chartreux, par où l'on passait alors de la grande allée du Luxembourg dans la rue d'Enfer. N'avez-vous donc dans vos fonctions obligé personne ? Le vieillard regarda Godefroy les sourcils contractés, les yeux pleins de souvenirs, comme un homme qui compulse le livre de sa vie en y cherchant l'action à laquelle il pourrait devoir une si rare reconnaissance. Et il se retourna froidement, après un salut empreint de doute. « Allons, pour une première entrevue, il ne s'est pas extrêmement effarouché, » se dit l'initié.